Bienvenue dans Eucharistia, l'émission qui vous emmène à la découverte des miracles eucharistiques. Présentée par Marie-Catherine Bédouré.
Bonjour à tous. Les voyages de Christophe Colomb à la fin du XVe siècle ouvrent la voie à la colonisation espagnole sur le continent américain. L'un de ces territoires à être colonisé est l'actuel Mexique en février 1519 par Hernán Cortés. Mexico, la capitale s'appelait alors Tenochtitlan, au nord de la ville, la colline de Tepeyrac. C'est sur cette colline qu'a été érigé le plus grand sanctuaire du monde dédié à la Vierge Marie, la basilique Notre-Dame de Guadalupe. 20 millions de visiteurs, bien plus que les 3 millions de visiteurs de Lourdes. Cette basilique conserve l'une des plus spectaculaires reliques de la chrétienté, la tilma. Retenez bien son nom, nous en reparlerons longuement. La guerre entre les Espagnols et les Aztèques est d'une violence inouïe. Les Espagnols concluent des alliances avec des peuples indiens voisins qui subissent le joug sanglant de la domination aztèque, rendu insupportable par l'esclavagisme et la pratique, à grande échelle, de sacrifices humains aux dieux du soleil. Huitzilopochtli, dieu tribal redoutable et puissant. Il se nourrit de cœur et de sang afin de conserver son énergie, le soleil, et favorise les victoires, la guerre. Par ailleurs, comme on le dit souvent, l'évangélisation s'est établie aussi par la violence et la conquête spirituelle a usé des mêmes moyens que la conquête territoriale, la coercition et la force. C'est donc dans ce contexte de violence que je vous propose de découvrir le miracle qui suit. Les conquistadors sont arrivés voilà une dizaine d'années. De nombreuses conversions et baptêmes ont eu lieu. Juan Diego, un Indien de 57 ans, baptisé de fraîche date par les missionnaires franciscains, très pieux, hâte le pas pour se rendre en ce petit matin du 9 décembre 1531 à la messe à Mexico. Sur le chemin, il entend un chant venant d'une multitude d'oiseaux, comme un chant céleste. Attiré par ce chant, il se dirige et grimpe sur la colline et rencontre une jeune fille éblouissante de lumière qui lui dit en substance « Je suis la parfaite et toujours Vierge Marie, Mère du vrai Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Je désire qu'on me construise à cet endroit une petite maison pour écouter en tant que mère compatissante les pleurs, les tristesses de ceux qui vont venir me voir. Va présenter cette demande à l'évêque de Mexico. » Le soir même, deuxième apparition. Juan Diego revoit la Vierge et lui dit que l'évêque, Monseigneur Zumárraga, ne l'a pas écoutée, qu'elle envoie quelqu'un d'autre, de plus estimable que lui. La Vierge lui répond, deuxième message, « Ils sont si nombreux, mes serviteurs, mais il faut que ce soit toi. Fais savoir à l'évêque ma volonté. » Le lendemain, 10 décembre, Juan retourne voir l'évêque, qui lui demande un signe. Le soir même, troisième apparition, la Vierge lui dit « Tu iras porter demain à l'évêque le signe qu'il demande afin qu'il croie. Je t'attends demain matin. » Mais le 11 décembre, Juan ne retourne pas voir la Vierge. Son oncle est malade. Il est mourant. Il cherche un prêtre pour les derniers sacrements. En vain. La visite à la Vierge passe après. Le 12 décembre, Juan ne trouve toujours pas de prêtre. C'est alors que la Vierge Marie se présente à lui et lui assure que son oncle est guéri. Elle lui dit aussi de monter sur la colline, cueillir des fleurs, des roses castillanes. Nous sommes en hiver, la colline de Tepeyrac est aride, il n'y pousse que des cactus. La Vierge Marie fait elle-même un bouquet des plus belles fleurs qu'elle dépose dans la tilma de Juan Diego et lui dit d'aller les porter au prélat, qu'il s'agit de la demande du ciel. Déployant la tilma devant l'évêque, les roses tombent au sol et une merveilleuse image de la Vierge Marie apparaît, comme imprimée dans l'étoffe. Le frère tombe à genoux, ainsi que tous ceux qui l'entourent. Juan Diego sera canonisé quelques années plus tard. L'image sur la tilma est celle d'une jeune fille entourée de rayons lumineux à la peau mate comme celle des métis, fruit des alliances indiennes et espagnoles. Sa posture et ses vêtements parlent à la fois au monde chrétien espagnol du XVIe siècle et aux Mexicains. Les symboles religieux sont compréhensibles par les peuples autochtones du Mexique. Mais quels sont ces symboles? D'abord, Marie est entourée de lumière. Cela rappelle la femme revêtue du soleil dans le livre de l'Apocalypse. Marie apporte une nouvelle lumière au peuple mexicain, un soleil qui ne demande pas de sacrifice pour survivre. L'homme n'est pas sacrifié pour un dieu, c'est Jésus qui s'est sacrifié pour nous. Marie remplace l'idolâtrie païenne par un vrai culte, celui du Christ. Jésus est le soleil. Ses cheveux sont détachés, signe de sa virginité. Elle porte une croix, signe de protection spirituelle, mais qui indique peut-être à ce peuple vaincu par les Espagnols qu'il peut renaître comme Jésus sur la croix. Elle porte un ruban noir à la taille. Il indique que la femme Nahua est enceinte. Un monde nouveau est à naître. La posture de Marie, elle est debout, légèrement inclinée, en signe d'humilité, de douceur. Elle semble danser légèrement et rappelle certains codes symboliques chez les Nahua. L'inclination du visage, son regard baissé, signe de compassion, de modestie et d'attention bienveillante à ceux qui la supplient. Sa tunique rose porte des motifs floraux. Une fleur particulière apparaît sur son ventre, une fleur à quatre pétales, la Nahui Oline, qui représente le centre du monde, ou les quatre points cardinaux, ou aussi les quatre soleils, et qui attend le cinquième, l'attente d'un renouveau. Souvenons-nous que Marie porte un ruban noir, signe qu'elle porte une présence sacrée, une présence divine. Marie se présente comme la mère du Dieu unique, une fusion entre spiritualité chrétienne et symbolisme aztèque, pour demander la réconciliation entre les deux peuples. Les mains jointes en prière, et montre à nouveau son humilité et sa dévotion à Dieu. Marie n'est pas une déesse, c'est la servante de Dieu. Une main plus claire, une plus foncée, l'union entre les peuples autochtones et les Espagnols. Ses mains, doucement inclinées, expriment aussi son intercession maternelle envers les croyants. Elle est debout sur un croissant de lune et portée par un ange. Ses pieds nus reposent entre le ciel étoilé du manteau et la terre. Marie est proche des hommes. C'est la victoire de la lumière sur les ténèbres, du bien sur le mal, la victoire de Dieu sur les divinités. Elle symbolise un rôle d'intercession entre le divin et l'humain. La posture, calme et équilibrée des pieds, montre douceur, paix, sérénité. Marie apparaît donc comme une mère de compassion pour consoler et écouter. Quelque chose de révolutionnaire pour un peuple qui, justement, n'avait pas l'habitude de la compassion. Il nous reste à évoquer deux mystères. La tilma, portée par l'Indien Juan Diego et sur laquelle s'est miraculeusement imprimée l'image de la Vierge Marie. La tilma est un tissu en fibre de mague, d'agave, un tissu qui résiste 20 ans, puis tombe en paille. Pourtant, il a 500 ans et est intact, malgré la poussière, la fumée des cierges, et même une bombe n'a pu l'altérer. Les couleurs de l'image passent à travers la trame des fils, comme si elles appartenaient au tissu lui-même, et les pigments sont d'origine inconnue. La tilma est une énigme. Elle a fait l'objet de nombreuses études scientifiques, en particulier par le géophysicien Thierry Castex, qui a également étudié le linceul de Turin. Inexplicable aussi, le mystère des yeux de la Vierge. Ils mesurent 6 à 7 mm de longueur. On y voit 13 personnages dans chacun. Le docteur américain José Astetonsman a numérisé les cornets. On parvient à distinguer parfaitement les personnages, dont l'évêque de Mexico. Et puis, les 46 étoiles sur le manteau de la Vierge. Elles correspondent aux constellations au-dessus de Mexico, ce 12 décembre 1531, lors du solstice d'hiver, lorsque les jours allongent, que la lumière augmente. Mort d'un ancien monde et naissance d'un nouveau, avec Dieu, pour Dieu unique et bienveillant. Enfin, merveilleux et surprenant tout à la fois, c'est un mathématicien, Fernando Orena Lanes, qui a découvert une partition musicale sur le manteau de la Vierge Marie. Pour lui, chaque centre des fleurs et chaque étoile représente une note de musique. Et par un exercice mathématico-musical, il a fait naître une musique divine. Comme si la Vierge Marie de Guadalupe avait voulu transmettre son message d'amour à tous les peuples avec une infinie délicatesse, en touchant tous nos sens. Il y a 5 siècles, la merveilleuse image a permis en 8 ans la réconciliation et des Indiens et des Espagnols. Elle a suscité également une évangélisation sans précédent dans l'histoire. Au XXIe siècle, la reine du Mexique et des Amériques se sert encore de son image pour parler à tous ses enfants. Le 24 avril 2007, jour où l'État de Mexico légalisait l'avortement, 1000 personnes furent témoins, lors d'une messe célébrée pour la défense de la vie, d'un phénomène inexplicable. Une intense lumière en forme de fœtus jaillit du ventre de l'image de la Vierge Marie. La patronne des enfants à naître, montre le chemin de la nouvelle évangélisation, la protection de la famille et le respect de la vie. Au revoir.
Vous venez d'écouter Eucharistia, l'émission qui vous emmène à la découverte des miracles eucharistiques. Présentée par Marie-Catherine Bédouret.